suite du grand jury RTL Le Figaro LCI, invité Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec vous, Valérie Pécresse. Les élections européennes du 7 juin vont obliger à un remaniement. Il sera petit, il sera grand, il y a beaucoup de rumeurs. Et puis il y a des commentaires aussi. Par exemple, Patrick Ollier, député UMP des Hauts-de-Seine, a dit « Ben oui, il y a beaucoup de ministres qui sont usés dans cette équipe ». Le Premier ministre a répondu « Non, mon gouvernement n'est pas usé ». Êtes-vous une ministre, précisément à cause des grèves, Valérie Pécresse, de la difficulté à gérer le secteur qui est le vôtre, êtes-vous une ministre usée ?
Il y a des difficultés dans l'université et je les assume, j'en assume toute la responsabilité. Mais moi je fais de la politique parce que je suis convaincue par un certain nombre de projets que porte le président de la République. Et dans ces projets, il y a la réforme de l'université. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis très longtemps. C'est un sujet que je porte, c'est une mission dans laquelle j'ai investi 2 années de ma vie et qui n'est pas achevée aujourd'hui et que je souhaite poursuivre.
Et toutes ces semaines de lutte, de difficultés, de problèmes ont entamé ou pas votre autorité, votre crédibilité auprès des interlocuteurs qui sont les vôtres dans votre ministère ?
Je crois que, en tout cas, dans le cadre du dialogue avec les organisations syndicales, avec les présidents d'université, avec les représentants de la communauté universitaire, ce dialogue n'a jamais été rompu. Et ce dialogue s'est toujours poursuivi. C'est vrai qu'il y a eu des inquiétudes, c'est vrai qu'il y a des interrogations, c'est vrai qu'il y a eu des critiques de la politique gouvernementale, c'est vrai qu'il y a aussi toute une série d'accusations qui sont injustifiées. Et moi, je veux faire la preuve aujourd'hui que ces accusations sont injustifiées. Je vous ai parlé de la question des moyens, je vous ai parlé de notre ambition, je vous ai parlé aussi peut-être du rapprochement entre grandes écoles et universités, qui est aussi au cœur de notre projet. Il y a aussi des inquiétudes sur les organismes de recherche. Nous voulons construire un nouveau paysage de recherche aujourd'hui en associant davantage les universités et les organismes de recherche. Nous ne voulons absolument pas démanteler le CNRS comme je l'ai entendu dire. Il y a beaucoup de rumeurs. Moi, je crois que c'est sur les actes que ce gouvernement sera jugé et aussi sur sa capacité, dans la durée, à mener une politique cohérente.
Une hypothèse. Simple hypothèse. Hein. Claude Allègre, ministre d'un grand ministère, innovation, recherche, industrie. Un métier à la japonaise. C'est une bonne idée, ça ?
Écoutez, moi, je commente pas les rumeurs. Sur la question de la recherche, il y a clairement 2 options. Soit on place dans une organisation gouvernementale la recherche avec l'enseignement supérieur, soit on la place avec l'industrie. Moi, je suis personnellement favorable à la première solution. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est en cohérence avec le projet actuel du gouvernement, qui est de mettre l'université au cœur de notre paysage de recherche, d'en faire un acteur majeur et qui parlera d'égal à égal avec les grandes écoles et avec les organismes de recherche.
C'est pour faire un bon profil, Claude Allègre, pour apaiser la communauté universitaire ?
Écoutez, de toutes les façons, c'est un choix qui relève du président de la République.
Alors, sans entrer dans les choix du président de la République, parce qu'effectivement, c'est lui qui décide d'un remaniement, on a quand même noté que mardi à Nice, lors d'une rencontre avec des militants UMP à l'issue de son voyage officiel de président de la République, Nicolas Sarkozy a fait applaudir par des militants de l'UMP le nom de Jack Lang, qui est aussi cité dans les rumeurs. Et Alain Juppé, dans les Échos vendredi, a dit « Je n'ai pas pour Jack Lang la même affection que Nicolas Sarkozy, je ne suis pas du tout fasciné par le personnage ». Et je voulais savoir, vous, si vous étiez fasciné par le personnage de Jack Lang, et si vous aviez été dans la salle, si vous l'auriez applaudi.
Je crois que Jack Lang s'est vu confier une mission par le chef de l'État.
À Cuba ?
Et oui, à Cuba.
Ouais.
Il remplit une mission pour le chef de l'État. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur cette mission.
Non, mais moi non plus, ça c'était pas là-dessus que j'appelais vos commentaires. C'est si vous aviez été dans la salle, est-ce que vous l'auriez applaudi ou est-ce que, comme le dit Alain Juppé, franchement, je suis pas fasciné par le personnage.
Non, mais moi je suis favorable à l'ouverture et s'il y a des personnalités de gauche qui veulent apporter leur soutien à notre politique, qui sont convaincus de la justesse de nos orientations politiques, et sur l'autonomie des universités, permettez-moi de dire que de Ségolène Royal à Jean-Marc Ayrault, en passant par Michel Rocard et Jack Lang, ils se sont tous prononcés favorablement à cette réforme, alors peut-être pas selon évidemment les modalités qui sont les miennes, parce que la critique est facile et l'art est difficile, mais ils sont tous favorables à l'autonomie. Alors s'ils veulent nous aider à faire l'autonomie et s'ils veulent mettre leur poids dans la balance pour convaincre l'opinion française que ce n'est pas une réforme de droite ou de gauche, que c'est une réforme qui est dans l'intérêt de l'université française, bienvenue.
Vous pourriez siéger sans difficulté avec Jack Lang autour de la table du Conseil des ministres.
Moi, je ne suis pas quelqu'un de sectaire. Et parfois, je rencontre des gens sectaires en face de moi.
Il y a une polémique qui a fait floresse cette semaine. C'est les propos que Rachida Dati, on va les qualifier, allez, de rigolo, qu'elle a tenu à une réunion MP sur l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'elle a fait une erreur ou bien que c'est un procès en sorcellerie qu'on fait à Rachida Dati?
Alors, moi, je n'ai absolument rien entendu, rien vu. Alors, ça va vous surprendre. Non, mais c'est
parce que vous n'étiez pas en France.
J'étais en Tunisie avec le Premier ministre. En Tunisie avec le Premier ministre. Non, mais attendez, justement, ça m'a permis de prendre un peu de recul avec la situation. Et j'ai trouvé, excusez-moi, je vais être très franche, hein, mais ce qui est excessif est insignifiant. Voilà. Et j'ai trouvé que les réactions...
C'est très intellectuel pour une pensée très franche.
Mais non, attendez, c'est pas intellectuel. J'étais en Tunisie et je vois la une d'un grand quotidien du matin sur un propos, une phrase rapportée d'un ministre rencontrant des jeunes UMP. Je veux dire, attendez, mais je crois qu'il ne faut pas faire une tempête dans un verre d'eau. Voilà. Moi, j'ai assisté à des meetings européens de Rachida Dati. Peut-être pas l'ensemble des journalistes qui ont fait ces articles. Moi, je l'ai fait. Moi, j'étais à Maison Alfort, j'étais à Paris, et j'ai entendu une Rachida Dati convaincue, convaincante, qui en plus parlait avec beaucoup d'éloquence de la façon dont elle avait présidé la politique judiciaire européenne. Bon, je ne comprends pas ce déferlement médiatique.
Est-ce qu'au-delà de cet épisode, vous diriez que vous avez la même conception de la politique que Rachida Dati? Une façon de faire de la politique?
On a tous une façon de faire de la politique qui nous est personnelle. Rachida Dati met beaucoup d'énergie dans ses convictions, dans sa volonté. Elle a fait des réformes, la réforme de la carte judiciaire, il lui a fallu beaucoup de courage. Je veux dire, elle est courageuse, et si on pouvait dire Valérie Pécresse est courageuse, je serais contente aussi.
Puisque nous en sommes là, qu'avez-vous pensé de la réprimande que le Conseil supérieur de la magistrature a... Je cherche le verbe. Enfin, une réprimande...
Ah non,
comment ?
Adressé,
très bien, merci Étienne, au juge Burgot, qui est le juge d'instruction de l'affaire Doutreau. Réprimande, c'est la plus petite des 9 sanctions possibles.
Je crois que cette décision, elle n'est pas compréhensible du grand public. Elle n'est pas compréhensible du grand public parce que le grand public se dit « Ouh, le juge Burgot a commis une faute ». C'est ce que dit le CSM en le sanctionnant. « Ouh, il a commis une faute et auquel cas, compte tenu de la souffrance des victimes... » Eh bien, à ce moment-là, le mot réprimande sonne vraiment comme décalé,
Il y a bien pire. Il y a un membre du CSM qui a voté et qui avait été partie prenante à l'affaire Doutreau pendant quelques mois. Quand on l'interroge, il dit « Ah, j'avais oublié ». Enfin, ça montre que quand même, ça marche pas du tout, ce CSM. C'est un bazar.
Alors, Monsieur Moujotte, c'est simple. S'il y a eu le moindre manquement aux règles de déontologie... il faut que le CSM restatue. Mais d'après ce que j'ai entendu dire et d'après ce qu'a dit le ministère de la Justice, ça n'est pas le cas. Il semblerait que la personne en question ait statué bien après le départ du juge.
Enfin, dans l'enquête que vous lirez dans le Figaro demain,
écoutez,
vous verrez qu'elle s'est occupée de Doutreau.
Ce que j'ai vu, c'est que le président Lamanda, le premier président de la Cour de cassation, a réagi extrêmement immédiatement à cette information. Et il est évident que les règles de déontologie dans une autorité appelé à statuer en matière disciplinaire sur une affaire aussi tragique que l'affaire Doutreau. On dit la femme de César doit être irréprochable, le CSM doit l'être.
Doit l'être aussi, mais ça c'est un autre problème que celui que vous aviez commencé à évoquer. Vous trouvez que la sanction est trop légère vis-à-vis du juge Burgot?
Je trouve qu'elle n'est pas compréhensible et je trouve qu'effectivement, si on compare le mot réprimande par rapport aux souffrances des victimes, c'est choquant. Évidemment, il ne m'appartient pas de mettre. Je pense plus exactement que. Le juge Burgot n'est certainement pas responsable de l'intégralité du fiasco d'Outreau. Mais en même temps, à un moment donné, il faut que nous ayons des responsabilités clairement établies.
Parmi les opposants décidés à la politique que vous menez, il y a François Bayrou. On pourrait le citer de multiples façons, mais à propos de la réforme de l'hôpital que nous avons évoquée tout à l'heure, il dit que le président de la République et le gouvernement s'attaquent une nouvelle fois au service public avec une logique, dit-il, de rentabilité et de concurrence. C'est un projet de société qu'on veut imposer à notre pays et ce n'est pas le modèle républicain français. François Bayrou va sortir un livre, assez attendu, commenté déjà par anticipation, qui s'appelle Abus de pouvoir. Quel regard vous avez sur la démarche d'opposant de François Bayrou?
Mais je vous l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de commentateurs dans le paysage politique français, pas beaucoup d'acteurs. Je pense que l'action, c'est difficile. Moi, je pense qu'avoir une ambition pour le service public, et Dieu sait si l'université est un service public sur lequel nous devons baser toutes nos ambitions pour l'avenir de notre jeunesse. Donc, avoir une ambition pour le service public, c'est pas se résigner à un service public perpétuellement en déficit. Je vois pas bien en quoi les deux notions sont antagonistes.
Un livre abus de pouvoir, ça dépasse la question des services publics. Un livre qui s'intitule Abus de pouvoir est quand même une critique d'une extrême violence vis-à-vis de l'action précisément que vous menez.
Oui, mais c'est un peu étonnant. Nous venons de faire une réforme institutionnelle. Nous allons revaloriser le Parlement. Moi, j'entends beaucoup dire cette semaine que justement, le Parlement commence à prendre un petit peu, j'allais dire, de la place dans la vie institutionnelle française. Vous venez de me dire que Jean-Pierre Raffarin s'apprêtait au Sénat à mettre beaucoup de lui-même dans la rédaction du texte hôpital. Je veux dire, nous sommes dans une Cinquième République rééquilibrée. Moi, j'ai été parlementaire. J'ai vécu la frustration des votes bloqués, des 49-3. D'ailleurs, certains qui commentent aujourd'hui les ont utilisés, ces outils. Alors, bon, très bien.
Vous pensez à qui ?
Très bien. Non, mais je. Non, à personne. À personne en particulier. À tous les commentateurs. À tous les commentateurs. Vous dites abus de pouvoir.
Non.
Vous dites, monsieur Apathy, abus de pouvoir. Je vous réponds, équilibre des pouvoirs.
On va voir.
Alors, la loi de.
Non, mais j'étais particulièrement frustrée d'un amendement que je n'ai pas pu passer un jour en tant que parlementaire sur les stages des jeunes, parce que j'avais travaillé avec Génération Précaire et je voulais que l'on interdise de recruter des jeunes en stage non rémunéré après leur diplôme. Et j'avais cet amendement à passer, j'ai attendu deux jours de le passer et malheureusement un 49-3 m'a empêché de le passer. C'est une histoire personnelle qui n'a rien à voir avec de la politique.
On va voir.
La loi Hadopi a relancé le débat sur l'absentéisme parlementaire. Vous disiez, vous avez été député. Qu'est-ce que vous pensez d'éventuelles sanctions financières ? Est-ce que vous pensez que c'est la solution ? Est-ce qu'il faut revoir les règles de cumul des mandats ? Par exemple, pour un maire, en fonction de la taille de la ville ?
Alors attendez, vous parlez Hadopi, parce que oui, quand vous avez dit sanctions financières pour Hadopi, j'ai pensé que vous parliez des sanctions financières
Internet.
Sanctions financières, parce que là, sur cette question qui touche la jeunesse, moi, ma position est très claire. Hein. La création artistique a une valeur et il faut rémunérer les artistes. Et moi, je ne dirai jamais à des jeunes que tout est gratuit et je ne leur dirai jamais non plus qu'il faut qu'on peut impunément violer la loi. Je veux dire, ça c'est une question de société et là il faut qu'on fasse des choix et moi mon choix, en tout cas sur cette question d'Hadopi, il est fait. Alors sur les parlementaires, c'était
sur
ça.
Sur la sanction des parlementaires.
Alors moi je pense que nous ne savons absolument pas mesurer le travail des parlementaires aujourd'hui. Et là encore, j'en parle en connaissance de cause. J'ai présidé pendant 6 mois, quand j'étais parlementaire, une mission sur la famille. Tout le travail que nous avions fait, tous les parlementaires qui étaient là, et ils étaient très assidus parce que c'était une mission qui était très passionnante. Tous les travaux qu'on a fait, les cinquantaines de réunions, les missions dans les territoires, etc. Rien de tout cela n'a été comptabilisé dans notre travail. Quand vous êtes en commission, quand vous êtes en mission, rien de tout ça est comptabilisé. La seule chose qu'on comptabilise, c'est la présence au vote solennel du mardi à 15h. Bon, je suis désolée, c'est facile de venir appuyer sur un bouton à 15h. Ça ne reflète pas le travail. C'est très difficile d'avoir une vraie idée du travail parlementaire. Si on était capable de le refléter vraiment dans des indicateurs qui soient des vrais indicateurs de travail, à ce moment-là, on pourrait envisager effectivement de prendre des mesures pour s'assurer que tout le monde travaille. Mais aujourd'hui, franchement, les indicateurs du travail parlementaire, permettez-moi de vous dire qu'ils ne sont pas au
courant. Il n'y a pas d'indicateur, mais quand même, le thème de l'absentéisme, ça n'est pas nous qui l'avons inventé.
Oui, mais
on entend même, ou on lit même Xavier Bertrand aujourd'hui dans Le Parisien qui parle de députés invisibles. Il y avait un problème quelque part.
Oui, mais justement, ce que dit bien Xavier Bertrand, c'est il dit, c'est pas parce que le député n'est pas dans l'hémicycle qu'il ne travaille pas.
Il dit ça.
Donc le problème de l'absentéisme ne doit pas être uniquement sur le fait, et pourtant...
Mais il y a un problème quand même.
Quand on revient dans sa circonscription, tout le monde vous le dit. Hein, tout le monde vous dit, ah, vous étiez 4 dans l'hémicycle cet après-midi. Mais on n'était pas dans l'hémicycle, on était ailleurs.
Il y a quand même un problème d'absentéisme.
Alors, il y a certainement, mais comme dans tous les métiers, il y a certainement un certain nombre de députés, mais ils sont très minoritaires, monsieur Apathy, très minoritaires.
Justement, on n'en sait rien, on en doute.
Hein ? Pardon ?
Oui, pour la raison que vous dites, c'est-à-dire il n'y a pas d'outil qui permet de mesurer ni la présence ni le travail d'un député, on n'en sait rien. On n'en sait rien s'ils sont minoritaires ou pas, on n'a aucun repère. On n'a aucun moyen de savoir quoi que ce soit.
Écoutez, moi je pense
qui travaille,
que
qui ne travaille pas, qui est présent, qui vient, qui ne vient
il
pas.
Il faut que l'Assemblée nationale se prononce sur son mode de fonctionnement et le Sénat se prononce sur son mode de fonctionnement. C'est eux les mieux à même de valoriser le travail parlementaire à sa juste valeur. C'est certainement pas avec un regard extérieur et en regardant un hémicycle vide.
Vous avez lu sans doute le livre de Jean-François Copé à ce propos ?
Non, j'ai pas encore eu le temps.
Je croyais que vous pensiez à lui tout à l'heure. Non.
Il m'arrive de penser à Jean-François Copé, mais...
Pas tous les jours.
Quand vous disiez que certains qui avaient expérimenté et imposé les votes bloqués, les difficultés, voire les impossibilités à présenter ces amendements,
Qui
en parlent aujourd'hui, je pensais que vous pensiez à Jean-François Copé.
Non, je n'y pensais pas, vous voyez comme quoi.
On est passé très vite sur la loi Internet. Est-ce que vous pensez que les socialistes qui s'opposent à ce qu'on sanctionne le téléchargement illégal, d'une certaine manière... On rompt avec les créateurs. Est-ce qu'il y a une rupture nouvelle ? Les créateurs sont plutôt à gauche. Et là, bizarrement, la gauche ne défend pas les créateurs.
Sur cette question, je pense qu'on n'est pas au bout de la réflexion. C'est une loi transitoire, la loi Hadopi, mais c'est une loi nécessaire. Elle est transitoire parce que c'est évident qu'Internet va encore évoluer et qu'un jour peut-être, on arrivera à un système sur Internet qui sera similaire à celui qu'on a, par exemple, sur la radio. Un jour peut-être, on arrivera à mettre en place un mode de tarification de l'Internet qui permettra de ne pas payer le téléchargement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà.
Mais ce n'était pas ma question.
Je pense que le Parti Socialiste essaye de jouer en réalité ce qu'il pense être...
Il joue les internautes contre les créateurs.
Ce qu'il pense être la bonne façon de parler à la jeunesse et contre, effectivement, la création et la culture aujourd'hui. Et je pense que c'est un pari dangereux parce que je pense, moi, qu'on ne peut pas dire aux jeunes, et les jeunes le comprennent, que tout est gratuit, que dans le monde, rien n'a de prix, que la création, et particulièrement la création culturelle, ça ne vaut rien. Parce que quand ça n'a pas de prix, ça ne vaut rien. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce message. Et je pense qu'on peut le tenir à des jeunes et qu'il faut être exigeant avec eux.
Vous êtes candidate pour les élections régionales de mars 2010. Vous ambitionnez de devenir la prochaine présidente de la région Île-de-France. Vous êtes déjà en campagne ou quand est-ce que vous allez commencer votre campagne ?
Oui, je suis en campagne dès lors que j'ai été désignée comme chef de file. Je suis identifiée comme étant volontaire pour présider la région. Nous allons mettre en place la campagne de manière progressive. Vous savez... Les franciliens ne sont déjà pas tellement dans les européennes, alors leur parler déjà des régionales, c'est peut-être un petit peu tôt. Cela dit, vous savez que mercredi, le président de la République va dévoiler son projet pour le Grand Paris, c'est-à-dire sa vision à 20 ans, des grands projets structurants qu'il a pour la région capitale, et il est évident que avec toute l'équipe des élus d'Île-de-France et l'équipe de la campagne, nous allons relayer ce message dès la fin de la semaine prochaine.
Vous connaissez son projet pour la grande région capitale ?
J'ai quelques informations.
Vous avez pu en parler avec lui ?
J'ai pu en parler avec lui.
D'accord. Parce que quelquefois, on peut oublier de... Je sais pas, vous voulez devenir la présidente de la région Île-de-France, donc vous avez été consultée, vous avez pu faire valoir votre point
de vue. Le président de la République a consulté M. Huchon et M. Delanoé. Il souhaite que ce projet
soit
en Paris. Et il m'en a parlé à moi. Il souhaite que ce projet de Grand Paris soit un projet qui soit un projet de partenariat entre l'État et les collectivités locales. Et je crois d'ailleurs que c'est tout le problème aujourd'hui du positionnement d'un certain nombre de régions socialistes. C'est-à-dire que nous avons un gouvernement, un président de la République qui sont moteurs, qui sont porteurs d'une vision pour le pays, qui se projettent à 20 ans, à 30 ans, sur des projets qui vont vraiment changer le visage de la France. Et nous avons des collectivités locales, certaines, pas toutes, qui sont des freins, qui se sont mis dans une logique de blocage, qui disent, nous on fait nos petite soupe dans nos petits chaudrons. On ne viendra pas en appui, en soutien des politiques gouvernementales. Ça n'est pas possible. Espèce de cohabitation, si vous voulez, entre un pouvoir national qui fait des choses, qui fait des réformes, et puis un pouvoir local qui lui bloquerait. Ça n'est pas possible et ça ne serait pas admis, et particulièrement par les franciliens.
Et la région Île-de-France, dirigée par Jean-Paul Huchon, elle fait sa petite cuisine dans son petit feu, dans son petit coin.
Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, effectivement, on a cette impression. Je pense notamment à la question du plan de relance aujourd'hui en matière économique. Nous avons besoin que la région Île-de-France vienne appuyer le plan de relance du gouvernement. Et d'ailleurs, c'est même paradoxal parce qu'elle n'appuie pas non plus les départements d'Île-de-France qui prendrait des initiatives dans ce domaine. Je pense aux Yvelines qui ont pris un plan de relance pour l'automobile. La région a dit, oh là là, surtout, on reporte, on fera un plan à nous, un jour, peut-être, bientôt, etc. Donc moi, je crois que c'est pas un bon mode de fonctionnement.
Alors, justement, sur le plan de relance, ça va coûter beaucoup d'argent, ça va creuser les déficits publics, ça va augmenter la dette. Et on voit des propositions diverses, à gauche, bien sûr, mais même à droite. Alain Juppé, on pourrait toucher au bouclier fiscal. Édouard Balladur, on pourrait surtaxer provisoirement les hauts revenus. Est-ce que vous croyez qu'on peut installer la stabilité fiscale? Est-ce que vraiment on peut être en permanence avec une fiscalité qui fait des zigzags?
Ah ben moi, ma position là-dessus est très très claire. Je crois que l'instabilité fiscale pose le problème de la crédibilité du gouvernement dans son ensemble. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que dire qu'on va changer une loi qu'on a votée en 2007, en 2009, ça donne un message de confusion qui rejaillit sur l'ensemble de la politique gouvernementale. Et je vais vous donner un exemple. Le crédit impôt recherche. Nous avons décidé de tripler le crédit impôt recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France aujourd'hui, dans le monde, est l'environnement fiscal le plus favorable pour la recherche privé. Ça veut dire que Microsoft, IBM, Novartis sont en train de revoir leurs décisions d'investissement pour investir en France, pour créer des emplois en France. Et vous imaginez, si on revient, si on donne le signal qu'en France, les lois fiscales, on peut les voter en 2007 et on peut les changer en 2009, mais vous pensez que ces entreprises-là, qui prennent des décisions d'investissement à 10 ans, elles vont venir investir en France? Mais on va brouiller tout le message. Et c'est aussi vrai pour les particuliers. Quand vous vous endettez sur 20 ans pour acheter un logement, parce qu'il y a une déduction fiscale sur les intérêts d'emprunt, si vous vous dites, ah ben la déduction fiscale, ah ben, l'année prochaine elle peut sauter parce qu'il y a la crise. Mais attendez, vous allez vous endetter? Et après, on s'étonne, on se dit, ah oui, les Français, ils épargnent beaucoup. Ils ne sont pas investisseurs, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Ils ne prennent pas de risques parce que la loi, elle change, les règles du jeu peuvent changer. Donc ils se prémunissent contre le changement des règles du jeu. Moi je vais vous dire, je suis pour qu'on inscrive dans la Constitution un principe qui s'appelle la confiance légitime, qui existe dans un certain nombre de pays, et dans lequel on dirait on ne peut pas changer les lois fiscales plus d'une fois tous les 5 ans. Comme ça, on garantirait absolument tout le monde sur le fait que, ben voilà, on prend une décision, ils peuvent prendre leurs décisions en fonction d'une loi qui ne va pas changer.
Donc Alain Juppé, quand il dit qu'il faut lâcher un peu de lest sur le bouclier fiscal, dit quelque chose qui ne doit pas être dit.
Mais moi, je vous le dis, je pense qu'il sème un message qui risque de porter atteinte à toute la crédibilité de la politique gouvernementale.
Et en même temps, puisque vous parlez de crédibilité, quand on voit les déficits qui se creusent, on a du mal à imaginer qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts au bout du chemin, parce qu'il faudra bien financer tout ça.
Les déficits, ils permettent quoi? Ils permettent la relance.
On est d'accord. Mais,
c'est
jour,
la relance. La relance,
jour, on sera confronté
la relance,
à...
elle amène, non, mais la relance amène des recettes.
Oui.
Donc pour combler les déficits, soit la relance est au rendez-vous, les recettes arrivent et ils comblent les déficits, soit effectivement, il y a des problèmes encore de financement et à ce moment-là, il faut recourir à d'autres sources de recettes. Mais aujourd'hui, notre pari, c'est la relance. Et d'ailleurs, ça marche. Vous avez vu qu'il y a un léger frémissement dans l'automobile. Il y a le bâtiment qui continue à tenir. Et c'est grâce au plan de relance du gouvernement et au choix qu'on a fait de l'investissement.
Je citerai encore Alain Juppé, c'était vendredi dans Les Échos, quand la reprise sera là. Les recettes entreront davantage grâce au retour de la croissance, mais je ne pense pas que ce sera suffisant.
Écoutez, je vous l'ai dit, il y a les commentateurs, il y a les acteurs. Agir, c'est toujours très difficile.
Brice Hortefeux a annoncé ce matin le dépôt d'une nouvelle proposition de loi sur le travail le dimanche. Est-ce que ça vous semble opportun dans le contexte?
C'est un des axes du programme du président de la République. Sur cette question du travail du dimanche, je pense qu'on ne peut pas ériger une règle nationale sur tout le territoire. Je pense qu'il y a des tas de spécificités. En revanche, alors pour l'Île-de-France, puisqu'on a parlé de l'Île-de-France, pour des grandes agglomérations dans lesquelles les conditions de vie sont extrêmement particulières, les temps de transport, vous savez, en Île-de-France, la galère des transports est quotidienne, on a plus de 80 minutes en moyenne de transport, on ne peut pas faire ses courses autrement que le soir très tard ou le week-end. Donc cette question de l'ouverture des magasins le dimanche en Île-de-France spécifiquement, oui. Ça me paraît un débat que nous devons porter. Pourquoi ? Mais tout simplement pour la qualité de vie des Franciliens et puis pour créer de l'emploi en Île-de-France aussi.
Il y aurait une règle extrêmement simple, c'est la liberté. Quand vous allez à New York, il y a des gens qui ouvrent 24 heures sur 24 et d'autres qui ferment le dimanche, le samedi, le lundi. Enfin, on est dans un pays invraisemblable. La liberté d'ouvrir le dimanche, tout simplement.
Alors,
mais ça, c'est la révolution.
Je crois quand même qu'il faut donner des garanties.
Ah, bah
des garanties aux salariés qui travaillent le dimanche. Le dimanche,
non mais. Étienne est dans l'opposition.
Monsieur Moujotte, je suis sans doute. Je suis sans doute sur une position politique un peu différente de la vôtre, mais je pense que le dimanche n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de repos et c'est un jour où il faut donner des contreparties quand on fait travailler les salariés.
Oui,
mais, je prendrai le cas de mes étudiants, par exemple, les étudiants universitaires. Travailler le dimanche, ça peut leur permettre de ne pas travailler du tout la semaine.
Double,
mais
évidemment.
Oui, ils seront payés double.
Eh ben
donc
alors.
Ça peut leur permettre de ne pas travailler du tout la semaine. Alors vous imaginez pour un.
Non, on est d'accord.
Voilà. Pour faire des études dans de bonnes conditions, c'est mieux.
Alors une information pour terminer sur le travail du dimanche. Dépêche AFP, 18h41, des salariés de la librairie Le Grand Cercle à Éragny-sur-Oise dans le Val d'Oise ont retenu dimanche pendant 8 heures leur patron dans son bureau pour lui imposer l'ouverture dominicale de l'enseigne, a-t-on appris de sources concordantes. Voilà.
Oh oui.
C'est pour ça que le législateur ne doit pas toujours essayer de faire le bonheur ou le malheur, mais il faut écouter évidemment les demandes des salariés.
Voilà, tout comme il faut écouter le grand jury, donc si vous voulez bien, on se retrouve dimanche prochain, même lieu, même heure, bonsoir.